Regard sur le monde sur Canal M, émission spéciale dans le cadre du Congrès international du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage. Nous recevons M. Francis Guiltaud, qui est président du réseau francophone. Il est de France. Et nous recevons également M. Laurent Renier, qui est de l'Institut royal pour sourds et aveugles de Bruxelles, en Belgique.
Alors toujours, Diane, au réseau francophone en déficience sensorielle et en langage, rencontre qui se tient à Longueuil et particulièrement à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nous sommes accompagnés de M. Francis Guiltaud, qui est directeur général de la Mutualité française Anjou-Mayenne et aussi directeur régional pour Vive Care pour les Pays de la Loire. M. Guiltaud, bienvenue à notre micro. C'est un plaisir de vous avoir avec nous.
Merci de me recevoir.
Qu'est-ce que la Mutualité française?
La Mutualité française Anjou-Mayenne, c'est une émanation des mutuelles, qui sont des mutuelles réunies nationalement au sein de la Fédération nationale de la Mutualité française et qui déclinent donc sur tous les territoires du pays des structures départementales qui ont vocation à gérer des établissements et des services au service de la population mutualiste idéalement et historiquement, mais aujourd'hui de toute la population. Et des services qui sont des services de santé. Dans la définition la plus large que l'on puisse imaginer de la santé, c'est-à-dire à la fois des services dans le domaine de la petite enfance, de l'accueil de la petite enfance, des services d'accompagnement pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, des services marchands dans l'optique, dans l'audioprothèse, des services de soins, comme les services comme les cabinets dentaires, mais aussi des services de soins à domicile avec des infirmiers et des infirmières, mais aussi des établissements hospitaliers, mais aussi des établissements, des structures d'ambulance, d'ambulanciers, des structures de vente de matériel médical, etc., etc. C'est-à-dire toute la gamme, finalement, des services possibles et imaginables qui peuvent être mis à la disposition de la population dans le domaine de la santé. Et les mutuelles sont des organisations non lucratives de droit privé. C'est en cela aussi que c'est très très différent de votre organisation québécoise. Des organisations de droit privé, mais non lucratives, sont des sociétés de personnes et pas des sociétés de capitaux, hein, qui sont appuyées sur la règle selon laquelle une personne apporte sa voix. Et par conséquent, ce sont des organisations qui reposent sur des conseils d'administration composés d'administrateurs qui sont les usagers des mutuelles, systématiquement, toujours les adhérents des mutuelles, qui se regroupent entre eux, qui s'organisent et qui portent des services à la destination de la population sur tous les territoires, tous les territoires départementaux et régionaux en France. Alors, on parle, nous, de personnes protégées par les mutuelles. Les personnes protégées par les mutuelles en France, c'est plus de 10 millions, c'est plus de 30 millions de personnes. C'est la moitié de la population. C'est la moitié de la population du pays qui est adhérent à une mutuelle. Les mutuelles, historiquement, sont aussi les ancêtres de la sécurité sociale. C'est-à-dire que, tout à fait initialement, ce sont des personnes qui se sont regroupées pour pouvoir faire face aux défis de la santé pour ceux parmi eux qui tombaient malades, ou ceux dont la famille ou des membres de la famille tombaient malades. Les mutuelles ont porté le projet de la sécurité sociale en France. Les mutuelles datent du 19e siècle dans leur définition juridique. Elles ont donc porté la création de la sécurité sociale qui en France a été créée juste après la guerre en 1945. Et les mutuelles ont continué à exister pour compléter l'offre de la sécurité sociale, une offre qui malheureusement s'est un peu réduite avec le temps, ce qui signifie que la part des mutuelles a réaugmenté à nouveau avec le temps. Mais ça veut dire aussi que les gens ont dû adhérer à une mutuelle pour pouvoir compléter naturellement la couverture de leurs soins en santé. Alors, ils sont aussi très liés à la période qu'on traverse aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes dans des réorganisations, et en particulier, parce que je ne vais pas tout évoquer là, ce serait beaucoup trop long, il faudrait qu'on y passe quelques journées, mais au moins celui déjà de la régionalisation. Je vous disais tout à l'heure que le parti pris initial, ça avait été essentiellement de concevoir des dispositifs départementaux. Aujourd'hui, nous passons au niveau régional. Alors, ce n'est pas un défi considérable, sauf que néanmoins, vous avez là des organisations dans chaque département qui sont nées il y a 50 ans, qui il y a 80 ans, il y a 60 ans, que sais-je encore, qui ont donc des hommes et des femmes qui ont été les bâtisseurs de leur entreprise, de leur réalité locale, et à qui il faut dire aujourd'hui, bah écoutez, votre histoire se termine là, puisque maintenant, on va créer une région, on va tous se mettre ensemble. En l'espèce, dans ma région, c'est 6 organisations distinctes qu'il s'agit de réunir. Et ça, c'est un défi un peu compliqué, parce que naturellement, il y a des résistances humaines naturelles. Que ce soit du côté des administrateurs, qui ont porté ces projets historiquement, ou du côté des salariés, qui sont assez nombreux. La région des Pays de la Loire, rien que dans les services que l'on sert, c'est au moins 4000 salariés, et par conséquent, c'est une vraie entreprise de taille importante.
Comment vous arrivez ? On vous écoute, là, on parle de vous êtes à la direction générale depuis 2011, il y a un pôle enfance-famille, un peu comme ici, il y a 38 établissements et services, il y a un pôle handicap qui regroupe 25 établissements services dans le domaine du traumatisme crânien et de la déficience sensorielle visuelle et auditive. C'est pas de mince-tâche.
Non, c'est pas une mastache. Je suis pas tout seul, hein, si je voulais. Je suis très bien épaulé par des collaborateurs de grande qualité. Donc on parvient à faire ces choses-là en se reposant sur la qualité des collaborateurs. Ça fonctionne. C'est un peu compliqué, je vous le concède, mais nous avançons. Voilà, nous avançons. Alors ça dépend des travaux dont il s'agit. C'est de toute façon, globalement, le sentiment profond que l'on peut améliorer significativement la qualité de l'accompagnement et des soins pour les personnes, d'une façon générale sur les territoires, et que ça, c'est notre mission, c'est notre mandat, et qu'on doit absolument introduire du qualitatif dans tout ce que nous faisons, et faire en sorte que les process soient revisités d'une façon suffisamment permanente pour être bien certain qu'on ne perd pas trop de choses en ligne, que les équipes soient assez dynamisées pour que le fait de travailler au sein de nos entreprises soit un plaisir et pas une douleur, et qu'à partir de là, on arrive à donner à voir le fait que les défis de la santé de nos pays sont de mieux en mieux pris en considération. C'est ça notre devoir, et je crois qu'on progresse véritablement.
Justement, quelle est l'importance pour vous de participer au réseau francophone en déficience sensorielle et en langage ?
Alors, c'est d'abord, ça a beaucoup d'importance pour moi, dans la mesure où j'ai la chance d'être l'un des créateurs de ce réseau, parce que, avant d'avoir la fonction de directeur général, je dirigeais le pôle d'activité dans le champ du handicap, notamment, et j'ai auparavant dirigé l'établissement, la structure pour déficience visuelle à Angers, donc j'étais familiarisé avec ces disciplines, et j'étais, je dois le dire, le premier à venir ici au Québec et à franchir la porte de l'INLB dans les locaux où nous nous trouvons aujourd'hui en 1998, si vous voulez, enfin même plus précisément en 1997. J'ai revu cette semaine Pierre Rondeau, qui était un permanent de cette maison, qui était l'un des directeurs adjoints de cet institut, et qui a été le premier à m'accueillir au mois d'août 1997, lors d'une visite que je faisais au Québec pour essayer de voir et de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnaient ici, et qui m'a convié à venir avec des professionnels en 1998, qui est l'année 1, si je puis dire, de la réalisation du process qui nous amenait à la création du réseau 10 ans plus tard. Hein ? Depuis cette année-là, moi, je suis quasiment venu tous les ans au Québec. J'y ai découvert beaucoup de choses que j'attendais parce que j'avais envie de véritablement d'explorer ce qu'étaient les approches et les méthodes des Nord-Américains en général, et en particulier des Québécois, qui étaient un petit peu les champions du CARE dans la représentation que nous en avons, nous, en France. Hein. Et à partir de là, de voir ce qui était transposable dans la qualité des techniques qui étaient proposées là et dans la qualité des services et de leur organisation. Et on s'est beaucoup inspiré de ce qu'étaient les pratiques québécoises dans ce que nous avons construit ensuite en France, dans beaucoup des choses qui ont été faites d'ailleurs. Et je parle à la première personne du singulier, j'aime pas beaucoup ça, mais là c'est la réalité. Je suis revenu accompagné d'un certain nombre de personnes, et collectivement, avec les amis québécois, nous avons décidé de la création du réseau en 2006 à peu près. En 2007, nous l'avons conçu, et en 2008, nous l'avons véritablement baptisé, il y a 10 ans de cela, et j'en suis le président depuis cette date.
Donc ça fait 20 ans maintenant. Est-ce que quand vous avez créé cette association, vous avez imaginé qu'elle serait ce qu'elle est aujourd'hui?
On n'avait pas... En fait, notre volonté, c'était de créer un dispositif qui soit très souple. Il est tellement souple qu'aujourd'hui, il n'y a pas de salariés permanents au réseau francophone. On a des dispositions collaboratives qui sont très différentes et qui sont très efficaces, qui pourraient probablement pas fonctionner dans toutes les réalités de la vie institutionnelle, mais qui fonctionnent très bien pour les missions qui sont les nôtres. Et les missions qui sont les nôtres, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'internationalement, au sein de la francophonie, eh bien, on ait des dispositifs comme celui-là qui permettent aux professionnels de se connaître et d'enrichir leurs pratiques respectives, d'aller voir, d'aller se visiter les uns les autres, d'aller travailler ensemble dans le cadre de mobilité que nous organisons, qui peuvent être naturellement internationales, comme on le fait beaucoup avec le Québec, qui peuvent être aussi intranationales parfois, avec des mobilités que nous faisons grâce à cela dans des établissements français, mais aussi avec les Belges, demain avec les Suisses, et de plus en plus, probablement après-demain, d'une manière plus forte, avec les collègues africains. Donc nous sommes dans une logique d'échange de pratiques, dans une logique d'optimisation de nos fonctionnements, dans une logique d'approfondissement d'un certain nombre de thématiques collectivement et donc d'enrichissement de la compétence de nos collaborateurs.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. La place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Éric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, t'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Toi Marco, qui ambitionnait simplement être heureux dans la vie, as-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi.
Qui est directeur général de la Mutualité française Anjou-Mayenne et aussi directeur régional pour VivCare pour la partie de Pays de la Loire, mais aussi président du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage. Monsieur Guiltaud, est-ce qu'il y a une grande différence dans la pratique des soins Québec et France? Est-ce qu'il y a une grande différence?
Alors, on peut dire que la différence, elle s'est un peu estompée, ou en tout cas, elle a diminué depuis un certain nombre d'années, parce qu'on est encore une fois beaucoup venu ici pour chercher un certain nombre de bonnes idées que nous avons transposées, au moins pour partie, sur notre territoire. Bon, plusieurs choses à dire, quelques remarques. La première, c'est le socle conceptuel sur lequel repose l'approche du handicap au Québec, dont nous nous sommes inspirés beaucoup. J'ai nommé là le processus de production du handicap qui a été pensé, conçu par Patrick Fougérolas, que nous connaissons bien et avec qui nous avons beaucoup, beaucoup travaillé dans le cadre du réseau francophone, considérablement. La deuxième chose, c'est que vous avez une organisation nationale, publique, entièrement gérée par l'État, qui a l'immense mérite d'avoir cette approche populationnelle, c'est-à-dire tout à fait égalitaire pour les territoires. Même si vous avez le grand défi de vos territoires avec naturellement des zones très très désertiques et la difficulté à les rendre des services dans ces zones-là, mais il y a véritablement une conception initiale et une volonté déterminée de faire en sorte que tous les citoyens québécois aient les mêmes droits en termes de services et vous avez le devoir d'organiser les services pour que ce soit rendu possible. En France, nous n'avons pas la même histoire. Notre histoire en France, elle est constellée d'initiatives sur tel ou tel territoire. Et il n'y a pas eu historiquement, comme nous l'avons quand même sur d'autres réalités, comme la réalité hospitalière, etc. Dans ce domaine de l'accompagnement des personnes déficientes sensorielles, il n'y a pas eu cette volonté d'unifier une pratique à l'échelle nationale. Donc, selon la région où vous vivez, vous n'aurez pas la même qualité de service, à la fois en volume de services rendus et en qualité de ces services, c'est-à-dire y compris en interrogeant les compétences des collaborateurs qui participent à ce service. On a progressé depuis 20 ans, avec notamment une loi qui a été promulguée en 2005, qui d'ailleurs est d'une inspiration assez largement québécoise. On retrouve beaucoup des éléments du PPH dans le propos introductif de la loi de 2005. Et dans ces applications, on retrouve beaucoup des logiques de services telles que vous les avez imaginées. J'ajouterais qu'en France, dans le domaine du sensoriel, et c'est moi la raison pour laquelle je me suis investi beaucoup dans ce domaine, l'histoire de la France dans le sensoriel, c'est d'avoir produit, si je puis dire, l'abbé de l'Épée, Louis Braille, Valentin Huy, tous les grands promoteurs finalement à la fois du Braille, de la langue des signes, etc. Et en France, nous en sommes un peu restés là, dans la mesure où c'est un peu la pédagogie qui a capté cette réalité-là et qui a confisqué complètement l'accompagnement des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel est vite devenu d'apprendre à lire et à écrire et à compter aux enfants aveugles et aux enfants sourds. Une fois que cette chose-là a été faite, eh bien, on considérait qu'on avait terminé le travail, quoi. Et on observait, il y a encore 30 ans, aucun volet en matière de réadaptation visuelle ou auditive. Au-delà de l'enseignement, qui était d'une grande qualité et qui l'est toujours, il n'y avait rien d'autre de disponible, il n'y avait rien d'autre qui existait. Et c'est vraiment l'Amérique du Nord, et notamment le Québec, qui a inventé une approche réadaptative, une approche de rééducation, qui aujourd'hui est venue enrichir les pratiques de toutes nos structures. Et c'est ça qu'on est venu chercher chez vous, notamment. Et c'est de ça qu'on s'est beaucoup inspiré pour pouvoir modifier véritablement les trajectoires des structures d'accueil et les trajectoires des compétences des professionnels.
Monsieur Guiteau, vous avez trois grands chapeaux que vous portez avec les fonctions que vous avez, dont la présidence de ce réseau-là. Quels sont vos principaux défis à titre de président du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage?
Alors, il y en a présentement, si je puis dire, il y en a plusieurs. Le premier défi, c'est de réussir à maintenir avec force les structures québécoises dans le champ du réseau. Les Québécois sont vraiment les co-créateurs de ce réseau. Le jour de la fondation du réseau, où nous en fêtons le 10e anniversaire, nous étions 11 représentants de structures sur la table de création. Autour de cette table, il y avait 6 structures françaises et 5 québécoises. Ces 5 structures québécoises, c'était les instituts de réadaptation québécois. C'était l'IRDPQ, c'était Nazareth et Lubrail, bien sûr, c'était l'Institut Raymond de Loire, c'était le Bouclier, c'était les instituts de rééducation qui étaient présents autour de la table. Et vous savez que dans le cadre des évolutions des lois québécoises, et de la loi 10 en particulier, ces structures, dans leur spécificité, ont disparu. Se sont trouvées regroupées, fusionnées au sein d'organisations beaucoup, beaucoup plus vastes. Et depuis ce temps-là, et le départ des directeurs généraux qui avaient été les directeurs généraux fondateurs de notre réseau, bien, la participation des Québécois à l'activité véritable du réseau, alors c'est pas vrai du tout à l'INLB ici, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits, eh bien, a diminué quelque peu, parce que les professionnels se sont trouvés dans des logiques de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes et qui sont beaucoup moins tournées vers ces relations internationales. Bon. Aujourd'hui, l'un des défis, c'est celui-là. Comment faire en sorte que les professionnels québécois, nos collègues québécois, restent bien fortement avec nous parce que nous avons besoin d'eux, nous avons la prétention de considérer qu'ils ont aussi besoin de nous et nous avons des belles choses à faire en commun. Et vraiment, vraiment, il faut absolument que nous gardions cette accroche et cette attache au Québec. Le deuxième défi, c'est de s'ouvrir sur les pays qui sont les pays en voie de développement. Quand on a créé le réseau, le parti pris, c'était de dire on va travailler avec des structures qui ont des standards comparables aux nôtres. Et donc, on va attendre un petit peu pour intégrer des pays en voie de développement. Je pense que l'heure est venue d'aller chercher, parce que nous y avons par ailleurs beaucoup de présence et beaucoup d'activités aussi, d'aller chercher nos collègues d'Afrique de l'Ouest francophone et d'Afrique du Nord francophone, et de voir avec eux comment, eh bien, dans des positions et des dispositions qui peuvent être particulières, on peut avoir ces échanges d'expertise. Ces gens-là ont développé des choses formidables auxquelles on ne pense jamais. On ne va pas voir ce qu'ils font, et c'est bien dommage. Enfin, nous y allons, nous, maintenant, mais pas assez, sans doute. Et il faut que ce voyage-là, il ait lieu également dans cette direction, et il faut qu'on ouvre la possibilité aux Africains de participer à nos travaux.
En tant que président, depuis 10 ans, comment vous évaluez l'impact du réseau?
L'impact, alors, c'est pareil, si vous voulez, je vous le disais, il s'est un peu tassé, je ne sais pas comment le dire, ici au Québec, manifestement, où on a encore naturellement des collègues avec lesquels les choses sont très fortes, mais on en veut d'autres, c'est ça. En Europe, en revanche, il s'est passé un peu le contraire, le réseau a triplé de volume en Europe et on a beaucoup, beaucoup d'adhérents. La Belgique, la Suisse y sont mis, mais en France, on a 25 structures qui sont désormais adhérentes au réseau. Et il y a une ferveur collective formidable. Je dois le dire et j'insiste beaucoup dessus, grâce notamment à la construction du réseau et à un concept qui est un concept québécois, c'est le dispositif de la table des coordinateurs, c'est-à-dire le fait que chaque structure adhérente met à disposition du réseau un collaborateur qui participe à tout le travail de réflexion et d'élaboration de toutes les activités du réseau. Et ça, ces échanges-là, qui sont des échanges téléphoniques ou en visio ou tout, et qui sont très réguliers, sont vraiment le moteur du réacteur du réseau francophone. Et ça, c'est quelque chose de très, très riche et d'inégalé, par ailleurs. Donc, on a une très grande portée auprès des professionnels européens, une portée qui croît, qui se développe, qui aujourd'hui est devenue une référence. Et on tient absolument à consolider encore cette image et cette réalité.
Est-ce que le développement des réseaux sociaux a influencé à quelque part votre développement, votre rayonnement ou votre fonctionnement?
Pas énormément, à vrai dire, pas énormément. D'abord, parce que la préoccupation, finalement, de la réadaptation déficience sensorielle, elle n'est pas dans le lot commun, j'allais dire, de l'ensemble de la population. Puis tant mieux, finalement, on pense à ça que quand on en a besoin, et puis on n'en a pas souvent besoin, ou pas toujours, en tout cas, et puis c'est mieux ainsi. Donc, non, je pense que les nouvelles technologies nous aident beaucoup à faire vivre des réseaux comme ça. Sans elles, on serait un petit peu plus en difficulté, parce que les rencontres physiques ne sont pas innombrables, et les rencontres tout court le sont beaucoup plus nombreuses, quoi. Donc, Donc les nouvelles technologies, oui, les réseaux sociaux, moins. Mais peut-être doit-on regarder de ce côté-là aussi.
En terminant, le temps passe très rapidement, M. Guiteau. Quels sont les projets d'avenir pour la mutualité française ?
Alors, ils sont énormes, là, parce que on sort du champ du sensoriel. Encore une fois, il s'agit de parachever ce travail d'organisation territoriale et à partir des groupes qui sont les nôtres, d'être véritablement les acteurs les plus marquants que l'on puisse être dans le domaine des progrès en santé et dans le domaine de toutes les technologies qui sont liées à la santé et de toutes les réflexions et les recherches qui sont nées autour d'elles.
Monsieur Francis Guiteau, directeur général de la Mutualité française Anjou-Mayenne, mais surtout président du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage, je me permettrai de vous féliciter, de vous remercier pour tout ce formidable travail au cours des 10 dernières années. Vous avez permis des rencontres et des avancées, j'en suis absolument convaincu.
Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.
Premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps.
De retour après la pause à notre émission Regard sur le monde.
Le temps de bâtir un roman au deuxième temps de la valse. On est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois, et Paris.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis, et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Nous accueillons maintenant M. Laurent Renier, directeur de département de déficience visuelle, centre de jour, enfants non scolarisés de l'Institut royal pour sourds et aveugles de Bruxelles en Belgique.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez, donc, qu'est-ce que l'Institut royal pour sourds et aveugles de Bruxelles?
Ah, c'est une assez vieille institution, donc c'est un institut qui a été créé il y a plus de 180 ans par les Sœurs de la Charité. Donc c'était à l'époque sur la Belgique, ma connaissance, le premier institut, donc le plus ancien, qui prenait en charge des jeunes personnes atteintes de déficience visuelle et ou auditif. Donc Institut Royal pour sourds et aveugles. Royal parce que nous avons encore une monarchie en Belgique. Donc cette institution a évolué au fil du temps et à l'heure actuelle, est séparée en une partie francophone et une partie néerlandophone. La Belgique est ainsi assez complexe avec trois communautés. Donc ici, nous sommes concernés par la partie francophone.
Vous êtes directeur du département de déficience visuelle. Quelle est plus précisément vos fonctions ?
Je travaille au centre de service. Donc nous avons un institut qui comprend plusieurs entités. Parmi les entités, il y a une crèche pour accueillir les nourrissons. Certaines places sont réservées pour des enfants, des nourrissons atteints de déficience sensorielle, d'autres pour des enfants du quartier ou des enfants, des professionnels de l'IRSA qui ne sont pas porteurs de handicap, donc sont d'une perspective d'inclusion. Nous avons des écoles, trois écoles sur site, donc deux écoles fondamentales. Une pour le type 6, c'est-à-dire déficience visuelle. Type 8, ce sont les troubles de l'apprentissage, les troubles instrumentaux. Et nous avons une école, donc la deuxième école fondamentale, de type 7, déficience auditive. La troisième école, c'est une école secondaire, donc pour les enfants de 14 ans, à partir de 14 ans, pour les deux troubles sensoriels, donc type 6 et type 7, troubles déficience visuelle, déficience auditive. Nous avons un home pour personnes âgées, déficience visuelle, et nous avons ce que l'on appelle le centre de service. Le centre de service, de manière la plus simple possible, pourrait être défini comme un centre de ressources dans lequel nous avons des paramédicaux, nous avons des logopèdes, des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, un service basse vision, un service avec des instructeurs en locomotion. Nous avons des éducateurs. Et notre rôle est d'accompagner les jeunes enfants lorsqu'ils arrivent sur le site, à l'école, en fonction de leur profil, de leurs besoins spécifiques. Nous pratiquons des évaluations, des prises en charge individuelles ou de groupe, et nous fournissons des supports pour les apprentissages, des adaptations du matériel, des conseils, des prises en charge, orientation mobilité par exemple.
Ça peut représenter combien de personnes qui sont à l'école par exemple?
Alors nous avons centre de jour pour l'IRSA sur site, un agrément pour 300 jeunes. Donc comptons que nous en avons 320 parce qu'il y a des départs en cours d'année. Et la répartition est 2/3, 1/3. la situation en Belgique, je pense, dans le monde, est telle qu'il y a plus d'enfants qui sont atteints de troubles de déficience auditive et troubles sévères du langage que d'enfants qui ont handicap visuel. Donc, on a plus ou moins 100 jeunes, 100 enfants qui sont pris en charge sur site pour la déficience visuelle et plus ou moins 200, un peu plus de 200 pour tout ce qui est déficience auditive, troubles sévères du langage. J'incite sur site parce que nous accompagnons également des jeunes qui sont dans des écoles en inclusion, soutenues par des professionnels de l'IRSA dans les écoles inclusives. Donc l'orientation politique aujourd'hui, c'est de pousser au maximum vers l'inclusion scolaire. Donc nous avons au jour d'aujourd'hui très peu de jeunes atteints d'un handicap dit simple, troubles sensoriels sans troubles associés. Donc nous avons une population qui, en fonction de leur profil, ne pourrait pas être en inclusion dans des écoles non spécialisées.
Est-ce que vous constatez une augmentation de la clientèle?
Non, mais par contre, une évolution, une modification des profils que nous avons. Il y a 15-20 ans d'ici, je n'étais pas encore en fonction, mais nous avions beaucoup plus de jeunes qui étaient autonomes. Donc les projets étaient autres, on avait de réels projets professionnels pour eux. Et ils étaient à l'IRSA pour une scolarité quasi normale avec des programmes comme on peut trouver dans l'enseignement normal, non spécialisé. Au jour d'aujourd'hui, avec les différentes décisions politiques, on a un bouleversement de la population accueillie à l'IRSA. Donc nous faisons face beaucoup plus à des polyhandicaps, des troubles associés, des troubles neurologiques, des troubles moteurs, des troubles instrumentaux. Ce sont les 10, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, retard mental, modéré, parfois sévère. Je suis également le directeur du centre de jour pour enfants non scolarisés. Donc nous l'avons créé il y a 2 ans d'ici pour répondre à un besoin, un constat que certains jeunes avaient besoin d'un autre rythme que celui qui était proposé à l'école, avaient besoin de plus d'encadrement que celui qui était disponible à l'école. Et nous avons créé donc un département, un pavillon pour accueillir ces jeunes et leur proposer autre chose. Donc nous sommes au niveau de la grande dépendance. C'est vraiment ce qui caractérise le centre de jour pour enfants non scolarisés.
Justement, ce centre de jour, concrètement, qu'est-ce que vous leur offrez? Comment ça se passe?
Nous refons toute une série d'activités, l'accueil sur site et en dehors du site, avec des projets. Donc nous sommes dans une perspective du PPH, qui est un concept processus de production du handicap. C'est un concept qui vient de chez vous. Donc c'est M. Fougé-Relas qui a mis au point, élaboré ce projet. Et c'est un des acquis du réseau. Donc via le réseau, nous avons eu connaissance de cette approche. Ce qui caractérise cette approche, on l'oppose souvent à une vision qui était traditionnelle avant, une approche plus médicale. Partait du handicap avant, on essayait de pallier le handicap. Ici, dans la perspective du PPH, on replace le jeune et sa famille au centre de l'échiquier. On repart de ses habitudes de vie pour constituer des projets ensemble avec la famille et on implique la famille, le jeune, dans l'établissement des objectifs. Et on part des habitudes de vie, les fameuses habitudes de vie. On essaie comment y répondre au mieux. Donc on n'a plus des objectifs directement lié à un profil médical ou psychologique, mais réellement concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et à partir de là, on découle un projet et on l'intègre dans les projets de groupe. Donc, les jeunes sont répartis dans des groupes en fonction de leur profil. Ça peut être un profil de handicap sensoriel, mais on peut en envisager d'autres, rien n'est figé. Alors on propose sur site toute une série d'activités, psychomotricité, des activités plus motrices, plus de bricolage, ils peuvent faire de la peinture, ils peuvent faire des ateliers de sensation. Nous avons des salles de snoozelen. Il y a également snoozelen. Le snoozelen, vous ne connaissez pas le snoozelen. Je l'ai découvert quand je suis arrivé à l'IRSA comme directeur, je ne connaissais pas du tout avant. Donc c'est une salle, on peut dire, de stimulation sensorielle. Donc vous avez une salle au calme. Généralement, il y a deux manières de concevoir un snoozelen, soit côté détente, zen. On peut isoler des jeunes qui peuvent être sur le fil et leur offrir quelque chose d'apaisant. Soit on est sur un versant plus exploration. On peut avoir différents outils de stimulation, tantôt visuelle, tantôt auditive, avec des sons, des musiques visuelles. Ça peut être des petites bulles qui remontent dans, dans une sorte d'aquarium et il y a des couleurs qui donnent voilà, des sensations. Donc nous avons une population malvoyante qui peut être intriguée et dans des situations de bien contrastées peuvent être stimulées et intéressées par cela. Il peut y avoir des stimulations tactiles, des planchers vibrants, il peut y avoir des odeurs, des petits diffuseurs d'odeurs, huiles essentielles. L'idée, c'est de les stimuler et de les intéresser. Et peut-être, on travaille un petit peu au niveau des sens compensatoires, c'est tout un domaine de recherche. Donc, quelqu'un qui est déficient visuel aura tendance à compenser en développant davantage ses capacités perceptives dans d'autres sens. Quelque chose abondamment étudié à Montréal, donc dans certaines équipes. Donc... Snoozelon.
Vous nous avez appris ce que c'était, le Snoozelon. Et on va prendre justement le temps de respirer, de comprendre tout ça. On va prendre une petite pause et on est de retour avec M. Rémy dans quelques instants. Scolarisé de l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles de Bruxelles. Monsieur Renier, quelle est l'importance de participer au réseau francophone en déficience sensorielle et en langage?
Je dirais que c'est très important et les intérêts sont multiples. Pour une institution dans un pays tel que la Belgique, un petit pays, si on compare au Québec, au Canada ou même la France, c'est très important d'être en contact avec d'autres institutions pour s'informer. Se soutenir. C'est un centre de ressources en quelque sorte où on échange sur les pratiques. Nous sommes tous et toutes dans nos institutions propres confrontés à des problèmes similaires. Et certains trouvent des solutions, proposent des solutions et c'est important d'être en contact pour avoir connaissance de ces solutions envisager, mise en place dans d'autres institutions, pour de notre côté s'en inspirer, ne pas réinventer la roue, c'est une richesse inouïe. C'est également une source de dynamisme. Lorsqu'on participe à ce genre de rencontres, on revient toujours non seulement avec des contacts, mais également avec un boost au niveau de la motivation. C'est une opportunité pour nos professionnels lorsqu'on rentre, pour également une mobilité internationale. À titre d'exemple, l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles en Belgique, nous avons déjà eu l'occasion d'envoyer 22 professionnels dans d'autres institutions en France ou au Québec dans le cadre du réseau francophone. Et c'est extrêmement enrichissant pour ces professionnels d'être en contact avec leurs pairs dans d'autres pays, voir comment ça se passe, les aménagements, les outils, les méthodes utilisées et les ramener en Belgique. De même, lorsque nous accueillons chez nous, et on en accueille chaque année plusieurs, des travailleurs, d'autres institutions, c'est aussi un très grand dynamisme et on voit qu'on n'est pas tout seul à être confronté au même problème et on a vraiment des ressources.
Que diriez-vous, M. Renier, de la distinction du Québec? Est-ce que vous remarquez que le Québec se distingue d'une façon particulière?
Oui, la manière de concevoir les choses est extrêmement rigoureuse et organisée au Québec. C'est une manière de penser, de concevoir les choses. Petit bémol, le compartiment. Je trouve qu'on compartimente un petit peu trop les choses, mais j'aime bien l'approche nord-américaine qui est très, très rigoureuse à ce niveau-là. C'est une source d'inspiration et je sais, un exemple, le courtage de connaissances, si ça parle à certaines personnes, c'est quelque chose qui a été créé donc, ici au Québec. Donc, ce sont des sortes de liens, des intervenants qui font le lien entre, d'une part, le terrain, les professionnels des institutions qui travaillent avec les usagers, les jeunes accueillis, et le monde universitaire, les académiques qui ont tendance à travailler dans leur tour d'ivoire à faire de la recherche fondamentale. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des liens entre les deux pour que cette recherche fondamentale répond à des besoins rencontrés sur le terrain et que les deux mondes se parlent, que l'on trouve des applications concrètes aux résultats des recherches qui sont faites dans les laboratoires. Nous avons fait notre décliné à la Belge, ce courtage de connaissances, il y a 6 ans d'ici à l'Université catholique de Louvain, basée en partie à Bruxelles. Nous avons créé une chaire universitaire, la chaire UCL, IRSA, avec une directrice scientifique. Et l'idée, c'est d'une part de faire le lien entre les deux mondes, mener des recherches qui vont trouver une utilité, une application pour pour des problèmes que nous rencontrons au quotidien dans nos institutions. Et d'autre part, investir dans la formation. C'est très important de former nos professionnels pour qu'ils soient préparés au mieux aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et c'est un peu le rôle de cette chaire, UCL-IRSA, qui est unique en Belgique, et, je dirais même en francophonie, j'aurais tendance à dire, et qui sera sans doute, en tout cas tel est notre désir, amené à encore se développer dans les années à venir. Le projet est un peu précaire puisqu'il est financé essentiellement par des donations, des sources externes, donc ce n'est pas le gouvernement qui soutient à l'heure actuelle cette chaire universitaire, mais nous en sommes très fiers.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, vous, à la déficience visuelle, même à agir à titre de directeur du département?
Ouf. Là, c'est un parcours un petit peu personnel, professionnel, qui est fait d'opportunités. Mon premier boulot, parce que moi je suis psychologue de formation, psychologue clinicien, mon premier boulot en sortant de mes études, c'était pour commencer une thèse de doctorat à l'Université catholique de Louvain dans le domaine, dans le cadre d'un projet européen, donc un gros projet européen, cinquième programme cadre, dans un laboratoire qui était pionnier en Belgique et dans le monde de la recherche sur la substitution sensorielle et la déficience visuelle. Donc j'ai commencé ainsi comme chercheur dans un laboratoire. D'ailleurs, ma promotrice Marie-Chantal Wanet travaille à l'école d'optométrie ici à Montréal, au Québec, pour la petite anecdote. Donc j'ai travaillé pendant plus ou moins 16 ans comme chercheur en partie sur la cécité de naissance, tout ce qui est compensation sensorielle, substitution sensorielle, les capacités olfactives chez la personne aveugle. Et lorsque je suis arrivé un petit peu au bout de parcours, faute de financement en Belgique, c'est un gros problème, le financement de la recherche en Belgique, j'ai trouvé une opportunité d'emploi à l'Institut Royal pour Sourds Aveugles comme directeur du département déficience visuelle. Donc ça va bientôt faire 2 ans que je suis directeur là-bas et je suis très heureux de cette opportunité.
Justement, qu'est-ce qui vous anime quotidiennement?
Le souci du bien-être des usagers. Je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Pas seulement le bien-être, mais l'autonomie. Essayer de les amener au maximum vers une autonomie. Autonomie relative, lorsqu'on parle du centre de jour pour enfants non scolarisés. Mais quand même, on essaye de les tirer dans toutes les dimensions possibles. Que ce soit le moteur, que ce soit le perceptif, que ce soit dans des activités quotidiennes. La propreté, les repas, la locomotion. Et... on doit combattre au quotidien la monotomie. On tombe très rapidement dans ce genre de boulot. Il faut garder ses professionnels motivés, avec se remettre en question, se renouveler, amener des nouvelles choses. Ça, c'est un défi. Les aménagements, penser un projet différemment. C'est d'apporter... Je conçois mon rôle en tant que directeur comme quelqu'un qui met au maximum les meilleures conditions possibles pour que les professionnels puissent accomplir leur travail et que les jeunes usagers se sentent le mieux dans le projet.
Est-ce que vous avez une situation qui vous a marqué plus particulièrement?
Oui, on a plusieurs. On a plusieurs. Ici, moi, je trouve qu'à l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles, c'est un paradoxe. Ce qui est commun à la plupart des jeunes qui sont accueillis, c'est le handicap sensoriel. Donc, par exemple, dans mon département, tous les jeunes ont à minima un trouble, une déficience visuelle. Ils sont malvoyants ou ils sont aveugles. Mais lorsqu'on se penche sur les profils, les individualités, c'est rarement le trouble qui est prépondérant chez eux, étant tous porteurs de handicap associés. Donc on a fort à faire et on fait souvent le grand écart entre des profils très variés au sein d'un même groupe. C'est la complexité de notre situation. On peut être confronté à des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, un retard mental. Dans notre institution, on souffre beaucoup de jeunes. On est très désemparés par rapport à certains jeunes qui présentent des troubles du comportement. Donc, nous ne sommes pas équipés, à lire ça, au jour d'aujourd'hui, pour accueillir et répondre pleinement à leurs besoins, ces jeunes. Pourtant, on doit faire avec, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en Belgique, il n'existe pas de solution. Étant donné qu'il existe des institutions, bien sûr, qui prennent en charge des jeunes qui ont des troubles du comportement, mais les handicaps associés, dont le handicap visuel, fait qu'ils sont souvent refusés dans ces institutions. Donc nous devons, nous, lire ça, comment faire le possible pour les accueillir et trouver un projet, et maintenir un projet, une cohésion au niveau des groupes. Vous imaginez comme ça peut perturber d'autres jeunes, d'avoir un jeune qui, de temps en temps, présente un trouble du comportement, peut être agressif. soutenir les professionnels qui, de temps en temps, subissent les humeurs de ces jeunes.
En termes de relève, justement, en termes de personnel, est-ce que c'est un défi pour vous dans votre secteur d'activité?
Oui, bien sûr. Une évolution de la population à prendre en compte. Les besoins d'hier ne sont pas tout à fait les mêmes que les besoins d'aujourd'hui. Nous subissons des pressions, des coupes budgétaires dans le domaine. Donc les ressources que nous avons à disposition ne sont jamais suffisantes. Donc on doit inventer, on doit faire des choses différemment. De plus en plus, on fonctionne en faisant des prises en charge plus orientées sur le groupe que sur la personne. Nous n'avons plus le luxe aujourd'hui de faire des prises en charge individuelles. Il y en a encore, mais ceux-ci sont des exceptions. Donc on travaille à l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles, pardon, dans une perspective un peu différente. On pratique ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Je ne sais pas qui a inventé le concept, mais il peut se décliner de la façon suivante. C'est que nous avons des équipes pluridisciplinaires ou transdisciplinaires constituées de logopèdes, kinés, ergothérapeutes, éducateurs, institutrices, en tout cas pour le fondamental, le primaire. Et une institutrice dans une classe n'est jamais seule. Elle est souvent accompagnée de professionnels du centre de service. Et ils mènent ensemble un projet où chacun, ça s'applique également au centre de jour pour enfants non scolarisés, mais sans l'institutrice parce que c'est non scolaire, mais chaque professionnel, quelle que soit sa spécialité, sa spécificité, participe à toutes les activités de la vie quotidienne de ces jeunes. Les repas, la locomotion, si on part à l'hypothérapie en extérieur, par exemple, si on va à la piscine, tous les professionnels sont là et participent à toutes les tâches. On ne veut pas entendre « moi je suis logopède, moi je n'ai pas fait des études pour faire un repas ». Non, non, non. Chacun arrive, mais avec son regard, sa spécificité. Le logopède sera plus attentif aux aspects de la communication et va partager peut-être une approche avec ses collègues éducateurs qui vont également participer à ceci. Le kiné, ce sera plus les aspects moteurs. Pendant qu'on se déplace. Donc il ne va pas être tout seul avec le jeune dans une salle de prise en charge kiné à faire des mouvements. On va voir dans les activités de la vie de tous les jours se déplacer d'une table au fauteuil, du fauteuil à la toilette ou lorsqu'on va dans le bus pour aller à l'hypothérapie ou à la piscine. On va voir un petit peu quels sont les problèmes et on va travailler là-dessus. Lorsqu'on fait du bricolage, le kiné va aussi travailler. Le psychologue pour tout ce qui est relationnel. La logopède pendant les repas. Il y a des jeunes qui ont des problèmes de déglutition. On va travailler là-dessus. Il va un peu coacher, informer ses collègues. Donc c'est la philosophie de la transdisciplinarité. C'est une question difficile. Les grands défis. La motivation. Maintenir la motivation, avoir une vision, insuffler le changement. Le changement est dans les groupes, les organisations, un défi. Et lorsqu'on veut arriver, on doit avoir une vision claire, la partager, convaincre et trouver les leviers pour y parvenir. Vous savez, dans un groupe humain, et nous sommes dans un système humain, dans une institution telle que l'IRSA, vaincre l'inertie et tous les obstacles au changement, c'est un défi de tous les jours.
Et les projets d'avenir ?
Projets d'avenir ? Ouf, j'en ai une multitude, mais pour l'instant, ce qui anime beaucoup l'Institut Royal en Belgique, c'est la mise en place du PPH. Donc c'est une sorte de... c'est notre fil rouge. Toute l'institution, on a plus ou moins 600 professionnels, le Grand IRSA. Donc c'est beaucoup avec toutes les entités périphériques. Je n'ai brossé que quelques-unes sur le site.
Qu'est-ce que le PPH ?
Processus de production du handicap, qui vient de Fougérolas, Québec. Donc, fil rouge, nous avons pour l'instant des gros travaux d'infrastructure sur site. Donc on est en train de moderniser nos infrastructures qui n'étaient pas adaptées. Et on doit continuer à fonctionner pendant le temps de ces travaux. Je suis en train de remettre sur pied mes services, notamment mon service orientation, mobilité, locomotion, ce qu'on appelle ici. Il y a du personnel à renouveler, donc il est vieillissant et bientôt retraité, donc il ne faut pas perdre leur expertise, il faut trouver des remplaçants et que le passage de flambeau et d'expérience se fasse. Et j'ai aussi d'autres ambitions que j'aimerais bien mettre en place. Par exemple, ces deux derniers jours, j'ai participé à une formation dans le cadre du réseau sur le courtage de connaissances. Moi, je signerai à demain pour avoir un courtier de connaissances chez moi. Personne qui serait disponible pour faire une revue de la littérature en fonction des des problèmes rencontrés et qui pourraient me dire, ben, tiens, voici ce que j'ai trouvé dans la littérature ou dans ma recherche de recensement des pratiques, voici ce qui se pratique ailleurs. Est-ce qu'on pourrait mettre en place chez vous à lire ça ? J'aimerais bien voir quelqu'un qui aille trouver des marchés, faire du lobbying peut-être auprès de chercheurs dans l'université. Tiens, toi, tu cherches dans le domaine de la déficience visuelle, tu n'aurais pas envie de faire une recherche pour démontrer telle ou telle chose ? J'ambitionne qu'à terme, on soit en mesure de pouvoir développer de nouvelles méthodes chez nous à lire ça, de prise en charge, développer de nouveaux outils que l'on puisse valider et partager.
Alors, les défis sont grands. Monsieur Régnier, merci infiniment d'être venu à notre micro et longue vie et bonne chance dans tous vos grands projets.
Merci pour votre invitation et de votre bonne humeur.
C'est déjà tout pour cette semaine à Regard sur le monde. La semaine prochaine, on poursuit nos entrevues avec des gens de la Martinique et de la France.